Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Et nous allons regarder les versets 13 à 17, mais on va prendre la lecture à partir du verset 7 pour nous remettre un peu dans le contexte. On a vu la dernière fois, donc, Jean-Baptiste qui arrive sur la scène de l'histoire, comme on dit, et qui prêche le message de repentance. Nous lisons donc en Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7, voici la parole de Dieu. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les yeux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est la parole de Dieu. Dans notre étude de l'évangile selon Matthieu, nous avons déjà vu que l'évangile nous présente Jésus comme le roi, le Messie qui était promis, le fils de David. Dans la généalogie du chapitre 1, nous avons vu le Seigneur Jésus comme présenté comme étant le descendant du roi David. On a aussi dans ce premier chapitre l'ange qui révèle à Joseph que Jésus est le Messie promis, qu'il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Dans le chapitre 2, nous avons les mages d'Orient qui ont déclaré que Jésus est roi en venant l'adorer, en venant lui apporter des présents d'une très grande valeur. Et dans le chapitre 3, nous avons donc l'arrivée de Jean-Baptiste sur scène. Il a proclamé la vérité, il a prêché, il a parlé avec une voix, une ferveur comme les anciens prophètes, de sorte que des foules sont venues pour l'entendre comme le premier prophète en Israël en 400 ans. Et c'est aussi le dernier prophète de l'ancienne alliance. Le peuple a écouté. Le peuple a confessé ses péchés. Jean les a baptisés dans le Jourdain. Certains juifs pouvaient se demander, est-ce que c'est là le Messie? Et Jean-Baptiste leur dit, non, moi je ne suis qu'une voix qui prépare le chemin du Messie. Il dit au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le baptême de Jean prépare, annonce le véritable baptême. Il annonce celui qui apporte le baptême du Saint-Esprit et du feu. Et dans la construction en grec, on ne peut pas séparer Saint-Esprit et feu. On pourrait lire, il vous baptisera du Saint-Esprit feu. Le feu est un agent purificateur, comme le Saint-Esprit. Et le baptême d'eau de Jean se rapporte à la repentance, mais celui pour qui il prépare le chemin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, va administrer le baptême du Saint-Esprit feu qui viendra purifier les croyants, qui viendra les transformer. Et cette annonce de celui qui vient pour baptiser du Saint-Esprit et de feu, cette annonce a été reçue avec une anticipation, un enthousiasme, parce que pour beaucoup, à l'époque, beaucoup de Juifs pensaient que l'Esprit Saint avait été retiré et qu'il n'allait revenir que lors de la venue du Messie. Et en entendant cette déclaration, cette annonce a été reçue avec beaucoup d'anticipation. Le Seigneur Jésus connaissait la prophétie au sujet de Jean qui préparait le chemin du Messie, et le Seigneur a réalisé que maintenant c'était le temps de son ministère. Il a mis de côté ses outils de menuisier, il a dit au revoir à sa famille, à ses amis, et puis il s'est dirigé vers le Jourdain. Et alors que Jean baptisait et prêchait, Jésus est arrivé sur la scène. Il s'est fait connaître publiquement. Il y avait quelque chose de majestueux dans l'apparence de Jésus. Il n'est pas venu entendre Jean prêcher. Il n'est pas venu, c'est pas un chercheur de curiosité. Il n'est pas venu chercher le pardon du péché. Mais comme le dit le verset 13, il est venu dans le but d'être baptisé. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et quand Jésus est venu à Jean pour être baptisé, Jean a découvert que celui qui était devant lui était bien différent de tous les autres. La plupart des hommes qui venaient auprès de Jean pour le baptême, Jean pouvait voir en eux une conscience douloureuse du péché. Mais voilà que l'apparence de cet homme et les paroles de cet homme, Jésus, Jean aperçut que il est en présence de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui, infiniment plus juste que lui. Et Jean, nous lisons dans le verset 14, a essayé d'empêcher ce baptême. Le mot qui est utilisé, s'opposer, dans le verset 14, est une forme intensive du verbe. Jean-Baptiste a fait beaucoup d'efforts pour ne pas baptiser le Seigneur Jésus. Et le temps imparfait dans ce verbe décrit Jean qui essaye à plusieurs reprises de convaincre Jésus d'être baptisé par lui. Il semblait pour Jean que ce serait beaucoup plus approprié qu'il confesse ses péchés à Jésus et qu'il soit baptisé, que Jean soit baptisé par le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste se sentait sans doute comme Pierre après qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le Seigneur prêchait un matin le long de la mer de Galilée et il a ensuite dit aux disciples de jeter leur filet de l'autre côté de la barque. Et quand ils l'ont fait, ils ont pris une grande quantité de poissons. Et Luc 5, verset 8, nous lisons que Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en présence du Fils de Dieu, il a vu clairement son propre péché. On peut penser aussi à Ésaïe au chapitre 6, par exemple. Et ça, c'est une leçon pour nous. Si on se sent assez bon pour aller au ciel soi-même par nos propres efforts, on a en fait jamais été dans la présence de Dieu. Si Jean-Baptiste est conscient de son propre indignité dans la présence du Seigneur Jésus, combien plus nous devrions être conscients de notre indignité, de notre péché, de notre besoin d'un sauveur. Qui peut nous sauver de nos péchés puisque nous sommes tous coupables, nous sommes tous pécheurs? Le témoignage et les événements donc de ce passage nous montrent et nous confirment que le Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie, le Sauveur, le Roi, le Sauveur du monde. Et tout d'abord, le premier point, le baptême de Jésus montre qu'il est effectivement ce Messie promis. Mais rappelez-vous le problème que Jean devait affronter. Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance, Il a réalisé que Jésus n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Et pourtant, Jésus a insisté pour que Jean aille de l'avant avec le baptême. En d'autres mots, si on peut paraphraser cela, la réponse de Jésus à Jean était quelque chose comme ceci. Il dit, en général, ce que tu dis est vrai. Mais en ce moment particulier, laisse faire maintenant. En ce moment particulier, dans ta vie et dans ma vie, alors que je suis sur le point de commencer mon ministère public, il est approprié que je sois baptisé. Alors pourquoi ? Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? La première raison, c'est pour obéir à la volonté de Dieu son Père. Laisse faire maintenant, verset 15, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus dit qu'il a besoin d'être baptisé pour remplir les exigences justes. Il a toujours voulu faire ce qui est juste. Le baptême était la volonté de Dieu pour lui, et faire la volonté de Dieu est toujours, bien sûr, la bonne chose à faire. Le psaume 40 est un psaume qui parle du Messie, qui est cité dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Et dans le verset 9 du psaume 40, le Messie dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». D'autres traductions disent « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Jésus veut faire la volonté de Dieu. Et il accomplissait les exigences de la loi pour pouvoir débuter son ministère comme notre sacrificateur. Il avait 30 ans. C'est l'âge légal pour entrer dans le service du temple. Il devait être lavé de manière cérémonielle pour entrer dans ce service. Il devait être oint d'huile, symbole d'une onction de l'Esprit. On peut lire cela en Exode, chapitre 29. Mais le Seigneur Jésus savait aussi qu'il était le serviteur souffrant d'Ésaïe 42, par exemple. Et le premier rôle du serviteur de l'Éternel est d'obéir à Dieu. Et Jésus vient accomplir tout ce qui est juste en donnant sa vie pour accomplir la rédemption de son peuple, en obéissant à la volonté de son Père. Et par ce baptême, Jésus déclare sa détermination à faire l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Au chapitre suivant, on verra que le Seigneur Jésus refuse de succomber à la tentation du diable, de rechercher la gloire. Il préfère le rôle du serviteur, d'obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus dit au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est aussi une nécessité pour Jean-Baptiste de baptiser Jésus, pour qu'il soit capable d'annoncer le Messie avec encore plus de persuasion. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 33, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas le Messie avant son baptême. Alors, il connaissait Jésus, de par les liens entre Marie et Élisabeth, mais il ne le connaissait pas, celui qui devait venir après lui. Il ne voyait pas Jésus comme le Messie. Il dit en Jean 1, 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Il fallait donc que Jean, lui aussi, accomplisse ce baptême. Et pourquoi ? Pourquoi était-ce la volonté de Dieu pour Jésus d'être baptisé ? Deuxième raison, pour décrire son œuvre de salut. Et son baptême a, dès le début, indiqué ce que son œuvre ultime était sur terre. Vers la fin de son ministère, Jésus a demandé à deux de ses disciples, Marc 10, 38, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et là, il compare sa prochaine mort comme à un baptême. Pourquoi il y a cette comparaison entre baptême et mort? Premièrement, Jésus a été baptisé par immersion. Et la raison pour laquelle on peut dire cela, c'est déjà le verbe qui est utilisé dans le grec, qui veut traduire plonger ou tremper. Ça ne veut jamais dire asperger. Il y a un autre mot pour cela en grec. Et le baptême par immersion est un symbole approprié au but même de la venue de Jésus. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Tout comme il a été plongé dans les eaux du Jourdain, il serait de la même manière plongé dans la mort, mis au tombeau, avant d'être ressuscité. Ce baptême représente visuellement la mort, la mise au tombeau et la résurrection. Mais deuxièmement, le Jourdain lui-même symbolise la mort. Parce que le Jourdain coule vers le sud, jusque vers les eaux arides de la mer morte. Jésus se fait baptiser pour indiquer la mort par laquelle il sauverait son peuple. Sa mort remplit les justes exigences de la loi. Et ces deux raisons du baptême s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus demande à ce que tous les croyants soient baptisés. Et donc se faire baptiser en tant que croyant est simplement une question d'obéissance. Et de plus, une raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons baptisés, c'est de témoigner publiquement de notre foi en ce que Jésus a fait pour nous sauver de nos péchés. Le Seigneur Jésus est mort, il est mis au tombeau et il est ressuscité d'entre les morts pour sauver son peuple. Pour notre justification. Troisième raison pour laquelle Jésus a été baptisé, c'était pour approuver le ministère de Jean-Baptiste. Les chefs religieux d'Israël n'avaient pas encore accepté le ministère de Jean-Baptiste. Plus tard, ils vont carrément le rejeter. On le verra à la fin, on le verra au chapitre 21 de Matthieu. Mais par sa soumission au baptême, le Seigneur Jésus a posé son sceau d'approbation sur l'œuvre de Jean-Baptiste comme étant non des hommes, mais de Dieu. Jean-Baptiste prêchait la repentance, il annonçait, il prêchait la vérité. Et quand Jésus a été baptisé par Jean, il affirmait le message de Jean que la repentance et la confession des péchés sont absolument nécessaires pour ceux qui doivent entrer dans le royaume des cieux. Le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Mais le message du Seigneur Jésus-Christ est aussi « Repentez-vous ». Le message de Pierre au jour de la Pentecôte est « Repentez-vous ». Le message de Paul dans ses lettres « Repentez-vous ». Le message du Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse à certaines églises « Repentez-vous ». Le Seigneur Jésus-Christ est venu approuver le ministère de Jean-Baptiste. Et nous aussi, nous devrions suivre son exemple en approuvant, en soutenant le ministère de ceux qui annoncent fidèlement l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on se joint à une église qui annonce, qui prêche l'évangile fidèlement, on donne une approbation publique du ministère de cette église. Mais il y a une quatrième raison pour laquelle Jésus a été baptisé. C'est pour s'identifier à son peuple. Celui qui devait prendre la place de son peuple pécheur est venu pour être baptisé et être ainsi identifié à son peuple. Il ne s'est pas baptisé lui-même, mais il s'est identifié à nous. Il ne s'est pas identifié à nos péchés, mais il s'est identifié à notre humanité. Comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 17, par exemple, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. » Ou Hébreux 4, verset 15, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il a été rendu semblable à nous. Il s'est identifié à notre humanité. Il ne s'est pas identifié à nos péchés. Jésus était prêt, donc, à être baptisé lui-même. Il se soumet à la volonté de Dieu son Père. Il illustre ce pourquoi il était venu en étant immergé. Il allait donner sa vie et mourir à la croix pour nous. Il s'identifie à son peuple pécheur. son baptême proclame qu'il est le Sauveur qui était promis. Mais deuxième preuve, l'onction de Jésus montre qu'il est le Messie. Le récit parallèle en Luc nous dit que lorsque Jésus a quitté les eaux du Jourdain, il a commencé à prier. Ici, Matthieu nous invite à saisir, à voir ce qui s'est passé. En fait, dans l'original, c'est comme s'il disait « Regardez, les cieux se sont ouverts. » Et quand les cieux sont ouverts, quelque chose d'important est révélé. Ici, bien entendu, nous allons voir que les trois personnes de la Trinité se révèlent. Mais il y a aussi le fait que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, que les cieux se sont ouverts. C'est encore une fois quelque chose d'approprié pour montrer, pour souligner que le Seigneur Jésus-Christ est notre seul chemin, notre seul accès au ciel, dans la présence de Dieu. « Je suis le seul chemin », dira le Seigneur Jésus-Christ en Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, donc, l'Esprit Saint est descendu du ciel sous une forme visible, ressemblant à une colombe. Il a été oint, le Seigneur Jésus-Christ a été oint par l'Esprit à son baptême, et c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Ésaïe 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Psaume 45, verset 8, « Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » Ces prophéties et d'autres que je n'ai pas citées sont la raison pour laquelle le Seigneur, le Sauveur promis, est appelé le Messie, c'est-à-dire celui qui a été oint. On va regarder plusieurs choses au sujet de cette onction. Tout d'abord, le but de cette onction. Pourquoi Jésus a-t-il été oint par l'Esprit de Dieu? Il y a au moins deux réponses. La première, c'est pour exercer le ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. On ne doit pas penser que Jésus était dépourvu de l'Esprit avant son baptême. Mais comme les anciens rois étaient oints d'huile à leur couronnement, de même le Seigneur Jésus-Christ, le roi Jésus, a été oint au début de son ministère. On a déjà vu deux autres types de personnes qui étaient oints pour le service dans l'Ancien Testament. Il y avait les rois, mais il y avait aussi les prophètes et les sacrificateurs. Ils étaient oints d'huile. Et le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de commencer son ministère comme le grand prophète, le grand prédicateur de la parole de Dieu. Il allait prêcher sous l'onction de l'Esprit-Saint. Et il deviendra manifeste qu'il était le grand prophète qui était promis par Moïse, en Deutéronome 18. Et bien sûr, le temps viendrait où il s'offrirait comme le seul vrai sacrifice pour le péché, et qu'il présenterait ce sacrifice dans la présence de Dieu. Il accomplirait ainsi la fonction de sacrificateur. Et au début de son ministère public, il est oint de l'Esprit pour exercer ce ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. Mais il y a un autre but pour l'onction de Jésus, c'est pour avoir le pouvoir de servir. Jésus est sur le point de commencer son ministère public et il ne comptait pas sur sa propre force humaine, mais sur la puissance de l'Esprit-Saint. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prononcé une seule parole, pas fait un seul pas, il n'a pas fait le moindre geste dans son ministère public avant que cette onction ait eu lieu. Dans Actes 10, verset 38, l'apôtre Pierre affirme ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pour exercer, pour avoir, pour servir son peuple, pour servir Dieu et accomplir son ministère. Et si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comptait sur la puissance de l'Esprit pour servir Dieu, nous devrions encore le faire davantage. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu encore plus que le Fils de Dieu lui-même. Nous voulons prêcher sous l'onction de l'Esprit. Nous voulons compter sur l'Esprit Saint pour nous aider à enseigner. Et lorsque nous témoignons pour Christ, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Quoi que nous fassions dans le service de Dieu, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu et ne pas compter sur nos propres forces. Il y a aussi le message de cette onction. Il y a certainement un message dans le fait que l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. Beaucoup de Juifs, peut-être Jean lui-même, cherchaient un Messie politique, un Messie conquérant. Mais le fait que l'Esprit Saint est apparu sur Jésus sous la forme d'une colombe nous enseigne au moins deux leçons concernant le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, que Jésus a été oint pour être un sacrifice. La colombe était un animal qu'on pouvait sacrifier, qu'on pouvait offrir en sacrifice. Cette onction par l'Esprit Saint n'est pas seulement pour le ministère ou pour vaincre la tentation au chapitre 4, mais c'est aussi la force pour affronter la mort, pour nos péchés. Jésus savait qu'il était venu en sacrifice pour le péché. Il avait consenti à donner sa vie pour sauver son peuple, comme cela a été symbolisé par le baptême, de sorte que le ciel l'a couronné avec la puissance dont il aurait besoin pour supporter cette mort pour nous. Il a été oint pour être un sacrifice. Mais deuxièmement, il a été oint, où l'onction de Jésus-Christ comme une colombe le révèle comme étant quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimant. La colombe est l'oiseau le plus humble, le plus doux, tout comme l'agneau est l'animal le plus humble et plus doux. Jean avait indiqué que le Messie baptiserait avec le feu, mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus être oint, Jésus n'a pas été oint par le feu. L'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, nous lisons « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dans sa première venue, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu comme un juge sévère, un bourreau qui exécute la sentence. Il est venu comme un sauveur, plein de douceur, plein de miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli les promesses, les prophéties de celui qui serait oint par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Il était oint au début de son ministère, et nous verrons bien sûr toute cette onction pendant son ministère. Par la puissance de cette onction, il a fait face à une souffrance, à une mort qu'on ne peut même pas imaginer. Le Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie promis. Cette onction le prouve. Et troisièmement, une autre preuve, la proclamation venant du ciel montre que Jésus est le Messie. Non seulement Dieu, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, a manifesté sa présence au baptême de Jésus, mais Dieu le Père l'a fait aussi. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et retrouve ces paroles dans l'Évangile de Matthieu, Marc et Luc. Dieu lui-même brise le silence, un silence qui a duré 400 ans, et il parle. Mais que fait le Père par cette proclamation? Tout d'abord, il confirme Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie. Ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », confirment que Jésus est bien le Fils de Dieu. On peut retrouver ces paroles, par exemple, dans le psaume 2, un psaume qui annonce le Messie à venir. Dans ce psaume 2, verset 7, nous lisons « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils ». Dieu lui-même rend témoignage que Jésus est bien le Messie promis depuis longtemps. Deuxièmement, il confirme que Jésus est sans péché. Il dit au verset, deuxième partie du verset 17, le Père dit, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » D'autres versions disent, « En qui je prends plaisir. » Voilà, mais depuis la création du monde, des millions de personnes ont vécu sur terre. Mais Dieu n'a trouvé personne d'autre que son Fils, en qui il prend plaisir. De plus, cette proclamation a pris en compte toute la vie cachée du Seigneur Jésus-Christ à Nazareth, comme un tout petit qui s'agrippait à la robe de Marie, comme un garçon jouant avec ses jouets, comme un jeune à l'école de la synagogue locale, comme un homme au banc du menuisier. Jésus n'a apporté que de la joie à son Père. Et cette louange publique qui vient du Père a été un grand encouragement pour le Fils, alors qu'il a commencé son ministère public. Immédiatement après son baptême, nous lisons qu'il est sorti de l'eau. Il n'a pas traîné. Le Père lui a donné une œuvre à accomplir et il s'est engagé dans cette œuvre sans perdre de temps. Il allait vivre, il allait offrir sa vie pour le salut de son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'offrande pour le péché devait être sainte, devait être sans défaut. Pour que Jésus soit le vrai sacrifice pour le péché, il devait y avoir en lui aucune tache de péché. S'il n'avait pas obéi à Dieu une seule fois, il n'aurait pu mourir que pour son propre péché. Mais puisqu'il est sans péché, il pouvait mourir pour nos péchés. Et le témoignage du Père, elle nous donne cette espérance qu'en Jésus-Christ, nous avons effectivement un sauveur parfait, un sauveur qui est digne, qui est capable de donner sa vie pour nos péchés, parce que lui, il n'en a aucun. Le Père confirme que Jésus est bien sans péché. Mais troisièmement, le Père confirme que le Seigneur Jésus est bien le serviteur souffrant. Dans Ésaïe 42, nous lisons que, par exemple, le verset 1, que l'âme de Dieu prend plaisir dans ce serviteur. Et cela ressemble à ce verset 17 en Matthieu. Et Matthieu, en fait, va même plus tard, au chapitre 12, indiquer que Jésus a accompli cette prophétie d'Ésaïe 42. En Matthieu 12, verset 16 et suivant, nous disons, Jésus le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Matthieu 12, versets 16 à 18, qui cite Ésaïe 42. Et d'autres passages dans le livre d'Ésaïe, qui parlent du serviteur de l'Éternel, et bien sûr tout culmine avec Ésaïe 53. Où nous avons le serviteur de l'Éternel qui est méprisé, rejeté des hommes, et qu'il porterait nos péchés. Nous pouvons être sûrs de l'amour de Dieu pour nous, en voyant qu'il n'a pas caché son propre Fils, son Fils bien-aimé, mais qu'il nous le donne comme un sacrifice pour notre péché. Seul un grand amour pour le monde amènerait Dieu à sacrifier son propre Fils pour le salut de son peuple. Mais revenons au début du message pour conclure. Nous avons dit que le baptême de Jean nous rappelle que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Si nous ne repentons pas, nos péchés nous condamneront à l'éternité de l'enfer. Qui donc peut nous sauver de nos péchés? Qui est le sauveur du monde? L'évidence du baptême de Jésus. montre clairement que ce Jésus de Nazareth est le Sauveur que Dieu a pourvu. Jean-Baptiste a témoigné de lui. Son baptême a témoigné de sa mission, a illustré sa mission. Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, a témoigné. Dieu, le Père, a témoigné. Et les preuves sont donc accablantes. Dieu a bien envoyé Jésus de Nazareth pour être notre Sauveur. Et nous pouvons nous réjouir parce que notre foi en Jésus est sur un fondement solide. Notre foi n'est pas aveugle. Notre foi est fondée sur des preuves qui sont solides. Le baptême de Jésus, l'onction de Jésus, la proclamation qui vient du ciel montrent que Jésus est bien le Messie promis, le Sauveur annoncé depuis le Jardin d'Éden, annoncé tout au long de l'Ancien Testament. Et il est venu pour sauver son peuple. Et la question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que nous avons mis notre confiance en lui seul? Est-ce que c'est à lui que nous regardons? Est-ce que c'est en lui que nous nous reposons? Parce qu'il est le seul Sauveur que Dieu nous a donné. Dans son baptême, donc, nous avons des preuves qu'il est bien ce Sauveur que Dieu nous a donné pour le salut de son peuple. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à nous réjouir de toujours plus de cette grâce qu'il nous a faite, de ce don merveilleux qu'il nous a donné en Jésus-Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.